c'est pas un, du tout un rêve de gosse. Mais mon rêve de gosse, c'est Radio B, mais.
Bon, faut quand même pas que j'abandonne l'idée voilà, du théâtre totalement, parce que si ça se trouve, ça va me plaire plus que prof.
Et finalement, l'écriture, moi, c'est, je m'en suis servi comme levier d'émancipation.
Bienvenue dans notre émission du dimanche matin, quand la radio se donne en spectacle. Nous sommes en direct sur Radio B et en public au théâtre de la scène nationale à Bourg-en-Bresse. Merci public. Je suis accompagnée au micro par Julie de la scène nationale. Bonjour Julie.
Bonjour Pascal.
Et par Jean-Claude de Radio B. Bonjour Jean-Claude.
Bonjour.
Pour que cette émission en direct et en public soit possible, nous prenons appui pour la scène nationale sur Lisiane, à l'organisation, mais aussi grâce à Manu, Nico et Alain à la technique. Et grâce aussi aux hôtesses, nous pouvons accueillir notre public. Donc on remercie Marjo, Catherine, Cécilia et Laurence. Et pour Radio B, on remercie d'ores et déjà Charlotte à la communication et Rémi à la technique. Donc nous sommes ensemble durant une heure pour échanger avec trois artistes dont les œuvres participent à l'un des temps forts de la scène nationale, en manque d'héroïne, à la rencontre de femmes inspirantes. Alors allons-y, prenons trois doses. La première avec Lucie Révéré. Bonjour Lucie.
Bonjour.
Lucie, vous êtes comédienne et metteuse en scène de la compagnie La Maison, artiste complice d'héroïne. Hier soir, vous nous avez présenté Sarrazine, inspirée de la vie d'Albertine Sarrazin, d'une intensité et d'une puissance. Merci Lucie.
Merci à vous.
Sophia Aram, bonjour.
Bonjour.
Sophia, vous êtes humoriste, comédienne et chroniqueuse sur France Inter, radio concurrente mais néanmoins amie. Vous êtes artiste complice de la scène nationale, enfin vous serez artiste complice de la scène nationale à l'automne.
Absolument. Merci pour l'invitation et on est amis avant tout.
Avant tout. Jeanne Garraud, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes musicienne, autrice, metteuse en scène et photographe pour la compagnie Neuve. Mm-hmm. Vous nous avez présenté hier soir votre pièce Marguerite, l'enchantement ou le désenchantement. Ah. Merci.
Merci à vous.
Nous avons alors organisé ici à la scène nationale ce temps fort en manque d'héroïne, puisque depuis janvier, pour celles et ceux qui ont pu venir assister à des spectacles ou des médiations ou encore des ateliers participatifs, nous abordons les héroïnes. Il nous paraissait donc logique de clore cette thématique avec un feu d'artifice de femmes au plateau, à la mise en scène, au jeu, à la création, au chant ou au micro, avec un week-end de folie à la rencontre de ces femmes inspirantes. On est vraiment heureux de recevoir trois d'entre elles ce jour. Donc pour se remémorer un petit peu les événements du week-end, on a pu apercevoir quelques guerrières d'Orient au chant baroque, mise en scène par Ambre Caron. On a donc pu voir une partie de la... Enfin, une partie, non, la pièce de Jeanne Garraud, Marguerite l'enchantement. On a pu également voir la mise en scène du destin d'Albertine Sarrazin par Lucie Révéré. N'oublions pas l'atelier de création de masques par Lisa Mazelier, pour celles et ceux qui auraient pu voir son exposition qui est encore dans le hall pour quelques temps. Et bien entendu, la participation de nos partenaires culinaires, les Sœurs Papilles. On a tous et toutes en tête ou dans nos cœurs des héroïnes, celles du quotidien, celles de l'histoire avec un grand H, celles dont on ne parle pas ou peu, qui auraient pu accompagner notre enfance. Dis Pascal, qui était ton héroïne quand tu étais petite ?
Eh bien, mon héroïne, Julie, c'est Jean-Claude, ici présent.
Attends, la différence d'âge est quand même pas assez.
Et toi, Jean-Claude, c'était qui ton héroïne d'enfance ?
Alors, moi, j'ai pas d'héroïne d'enfance, parce que j'ai dû être élevée dans un milieu trop macho, je sais pas. Par contre, j'ai une héroïne d'adolescente, elle est à 200 mètres d'ici, elle tient un café qui est en bas de la rue Victor Bach. Elle s'appelle Janine. Et c'est quand même une célébrité locale.
Alors nous sommes allés à la rencontre des Burgiens et des Burgiennes pour découvrir leurs héroïnes d'enfance.
Alors, est-ce que tu pourrais me dire une héroïne qui a marqué ton enfance ou qui était importante pour toi quand tu étais enfant ?
La seule qui me vienne comme ça et qui est très décriée, c'est Wonder Woman. Mais j'avais pas plus de héros. Pas plus de héros que d'héroïnes. Et je pense que c'était plus par les gens du quotidien qui pouvaient m'inspirer. Comme beaucoup de gens, je pense, je vais dire ma mère. Et des gens que j'ai pas connus, des ancêtres dans ma famille, des figures comme ça un peu familiales.
Wonder Woman, okay. Hyper facile, trop balèze. Le fouet et tout, c'est trop bien quoi. Après, dans le monde des humains, ma grand-mère, elle était polonaise, elle s'est mariée à 15 ans. Et après, son mari ne voulait pas qu'elle travaille, donc elle a travaillé en cachette, elle a passé son permis en cachette. Et c'est balèze, non ?
Je pense aux Cat Size. Qui étaient trois sœurs qui tenaient un restaurant, je crois, le jour, mais la nuit, qui devenaient des justicières et qui allaient voler les riches pour donner aux pauvres. Enfin, dans mon souvenir, c'est ça, en tout cas. Et elles étaient belles et fortes, elles étaient super fortes.
La sœur de ma mère, qui était sœur, qui est devenue sœur ouvrière, qui a résisté au patronat, une syndicaliste, et qui a guidé beaucoup de choses dans ma vie et... avec qui j'ai eu une relation très spécifique, très spéciale.
Comme beaucoup de ma génération liée au dessin animé, comme les Wonder Woman, où il y a Catwoman aussi, il y a Batgirl, en fait tous les penchants féminins des héros qu'on connaît, de DC Comics, Marvel, et aussi du côté plutôt religion catholique. Et, Sœur Marie-Thérèse, j'en ai beaucoup entendu parler, et de son histoire, j'ai compris que je pouvais faire un lien avec aussi les héroïnes de dessins animés.
Je pense plus à des personnages de dessins animés, de princesses, de... Zora Larousse, qui vraiment pour moi étaient des personnages que j'admirais. Je me disais qu'est-ce que j'aimerais être comme elle.
Alors pour le côté un peu imaginaire, mon héroïne, on va dire préférée, c'était Shirazade, parce que tout simplement elle a réussi à sauver tout un tas de femmes grâce à des histoires. Et je trouve ça assez magique. Et moi, les histoires, elles m'ont sauvée de plein de situations et de moments un peu durs aussi. Donc du coup, je me suis vraiment identifiée à Shirazade. Et la deuxième personne, du coup, réelle, c'est ma grand-mère. Parce que ma grand-mère était malvoyante. Et pour moi, elle a accompli tellement de choses malgré son handicap qu'aujourd'hui, c'est toujours mon héroïne de cœur et de vie. Donc.
Dans l'enfance, tu vois les choses... tout est héros, héroïne, que ce soit... Il n'y a pas de différence vraiment... Les figures de l'héroïsme féminine, elles sont arrivées plus tard en fait. La notion de héros, c'est quelque chose qu'on nous inculque plus tard en fait. Au début, en fait, on est un peu tous des êtres humains et on n'est pas là à se dire quelle est notre force, notre implication, notre place dans la société ou les uns envers les autres. Au début, on est tous sur une échelle d'égalité.
Quand j'étais enfant, je regardais beaucoup de dessins animés et un dessin animé qui m'a marqué, c'est Mulan. Cette femme guerrière qui avait à l'origine un destin tout tracé de fille dévouée qui devait se marier pour rendre hommage à sa famille et à la royauté, tu vois, bah, au final elle a choisi son destin et c'est cette femme guerrière qui du coup pour moi a marqué mon enfance.
Écoutez Radio B. Radio B.
Et vous, chers invités, avez-vous eu des modèles féminins inspirants depuis votre enfance ? Jeanne Garraud.
Alors moi, en y réfléchissant un tout petit peu, je me suis dit peut-être qu'enfant, quand j'étais petite, l'héroïne, c'était ma sœur bien-aimée, je dirais. Parce qu'elle était magique, quoi. Et j'avais très envie que la magie, ça soit quelque chose de possible. Donc, je ne sais pas si c'était une héroïne, mais j'ai envie que ça soit vrai, cette histoire. Et puis après, l'héroïne réelle, quand j'étais enfant, aussi donc petite, c'était quelqu'un que j'ai rencontré qui m'a appris à faire de la photo et qui s'appelle Isabelle Schroeter. Ça serait ça le nom qui me vient. Et je rêvais de faire comme elle, de la photographie. Et elle avait un petit labo photo dans sa salle de bain, elle m'y invitait. Et ça, c'était, elle sentait bon, quoi. Je me souviens de son parfum. Enfin, c'était mon héroïne, ouais.
Merci, Lucie.
Eh bien, moi, c'est marrant que tu parles de magie, Jeanne, parce que j'ai pensé à ça aussi. Moi, tout de suite, j'ai pensé à ma sœur, ma grande sœur. Elle a un an et demi de plus que moi, et elle inventait la magie. Elle arrivait, en fait, elle me disait tout le temps que pour ranger la chambre, eh ben, on allait jouer à Mary Poppins, et qu'en fait, elle allait claquer des doigts, et que moi, j'allais être la magie. C'est-à-dire que c'est moi qui allais ranger la chambre. Et à la fois, je me faisais arnaquer complètement. Et dans le même temps, je me dis, elle inventait tellement tout le temps des choses comme ça pour avoir le pouvoir. Et voilà, elle inventait tout le temps des jeux. Quelqu'un de très, très, très ludique, finalement, et qui m'a beaucoup inspirée. Je dirais que c'était ma sœur.
Merci, Sophia. Alors moi, comme j'ai grandi avec la télévision et que j'étais quand même beaucoup plus terre-à-terre que vos deux autres invités, moi, je regardais tous les dimanches soirs 7 sur 7 et mon héroïne, c'était Anne Sinclair. Je voulais être journaliste enfant. Et pour moi, cette femme qui avait la poigne, qui ne baissait pas les yeux face à ses invités, quels qu'ils soient, et surtout face aux hommes, parce qu'elle avait majoritairement des hommes, elle était assez, assez admirable pour ça. Et pour moi, je voulais être Anne Sinclair. Aussi parce que pour moi, c'est une des plus belles femmes que j'avais vues, avec ses pulls en mohair et ses yeux bleus. Mmh. Voilà, je peux avoir les pulls en mohair, les yeux bleus, j'ai raté.
C'est mon tour.
C'est ton tour, Jean-Claude. Jean-Claude doit mettre ses lunettes. Il faut tout dire aux auditeurs. On dit la vérité, on ment pas.
Non, on ment pas.
C'est au tour de mon héroïne.
Je recule la feuille, c'est peu importe. Alors, maintenant, on va parler des héroïnes de l'un. Enfin, pas nous directement, mais la maman de Jeanne, Joëlle Garraud, qui, dans une émission qu'elle fait sur la plus grande radio de la moitié sud de la France...
Radio B.
A consacré une émission aux héroïnes du département, celles qui ont pu être résistantes, celles qui actuellement luttent pour la préservation du patrimoine, par exemple... Ou tout autre. On va l'écouter.
Deux héroïnes d'hier, dont nous avons parlé dans Il n'y a pas que le 8 mars, notre émission mensuelle dont le sujet était Femmes résistantes. J'en profite là pour faire un petit salut à Catherine Ravana, qui travaille depuis de nombreuses années à mettre en lumière des femmes natives ou alors qui ont vécu dans le département de l'Ain. Alors tout d'abord, Sabine Zlatine, la dame d'Izieux. Elle a un peu plus de 20 ans quand elle quitte la Pologne antisémite en 1920. Elle passe par l'Allemagne, la Belgique, arrive en France où elle entreprend des études en histoire de l'art. Elle sera au fil du temps agricultrice, infirmière militaire en 1939, poste qu'elle devra quitter à cause des lois antisémites. Et alors elle travaille comme bénévole à la préfecture de l'Hérault comme assistante sociale. Elle se fait un réseau de connaissances très important dans tous les milieux et ça lui permet entre autres de sortir des enfants des camps d'internement d'Agde et de Resvalt qui sont dans le midi de la France, et ça jusqu'en 41. Elle dirige un premier lieu de vie à Palavas. En 42, c'est les grandes rafles et il faut fuir et trouver un lieu plus sûr pour accueillir les enfants. Alors c'est là qu'elle vient à Izieux dans l'Ain. Cet endroit est choisi en 1943 parce que c'est une zone qui est sous autorité italienne et que les Juifs sont moins menacés ici. La colonie est un lieu de passage. C'est un réseau de sauvetage composé d'autres maisons aussi, de familles d'accueil et encore de filières de passage en Suisse. Au moins 150 enfants, juifs et tziganes, y sont accueillis à partir de mai 1943. Certains ne restent que quelques semaines, certains d'autres quelques mois. Et puis, le 6 avril 44, la Gestapo de Lyon, dirigée par M. Barbie, arrête les 44 enfants de la colonie et les 7 éducateurs. Sabine n'était pas présente, elle échappe ainsi à la déportation. Une femme engagée depuis toujours contre le fascisme et le colonialisme, elle continue à être active après cette grande période. À la même époque, Paulette Perrottet. Alors elle est née à Privas en 1911. Elle fait des études de pharmacie à la faculté de Lyon et c'est là qu'elle rencontre Émile Mercier. Ils se marient en 1935. Elle s'installe comme pharmacienne à Nantua et lui, il ouvre un cabinet médical. En 1940, début de la guerre, le couple regroupe autour d'eux des connaissances et décide de résister. Il y a des contacts qui sont établis entre différents membres des associations. Alors l'association OSE, qui est Organisme Secours des Enfants, qui est une association juive, et puis la CIMAD, qui est une association protestante, et aussi le propriétaire d'un lieu qui pourrait accueillir des enfants ou des réfugiés près de la frontière suisse. Alors le groupe adhère au mouvement Combat. Lui est nommé chef de secteur. Le 14 décembre 1943, il y a une rafle à Nantua et Émile y est pris. Alors lui, il avait 33 ans et le couple a alors 5 enfants. Paulette Mercier, évidemment repérée par les Allemands, est arrachée à sa pharmacie le 12 juillet 1944. Elle rejoint âprement dans la colonie de vacances d'Oyonnax où ont été transportés des blessés évacués des hôpitaux de Nantua et d'Oyonnax. La menace est là, les Allemands sont arrivés à Nantua. Il faut transférer les blessés et ça se fait dans un bois. Paulette Mercier, avec une autre amie, officie comme infirmière. Elle les veille pendant une dizaine de jours et puis peu après, il y a un hôpital de campagne qui est établi dans une ferme au pied du Crêt de Chalam. À la mi-septembre, Paulette Mercier retourne à la pharmacie. Elle continue à se rendre à l'hôpital le soir. Elle y apporte des médicaments. Elle a toujours 5 enfants. Elle est toujours en contact avec des réseaux de passeurs en Suisse. Après la guerre, cette femme entame alors des études de médecine, ben évidemment qu'elle mène à bien. Je finirai avec des héroïnes anonymes, des modèles simplement de ceux et de celles qui les côtoient. C'est toute jeune fille venue d'ailleurs qui, parce que c'est vital, apprennent la langue de l'exil et deviennent adultes avant l'âge. Ces petites jeunettes qui portent l'espoir de la famille, ce sont elles qui font les démarches administratives, traduisent les documents, font le lien avec les organismes de tout genre, accompagnent et donnent sens aux mots des médecins, des professeurs, de l'avocat, elles qui cherchent un abri, un logement, de quoi manger. Déterminées, elles font leur chemin. Héroïne d'hier et d'aujourd'hui, elle s'appelle Ginette, Raymonda, Florentina, Rolande, Knarik, Eslem.
Vous écoutez Radio B. Radio B.
Nous venons donc d'entendre Joëlle Garraud qui nous a raconté les histoires de certaines résistantes du département. Il y en a eu bien plus, bien entendu, nous ne pouvons pas toutes les évoquer. Toutes ces femmes qui se battent au quotidien, en tout cas qui ont une posture engagée et qui l'ont toujours pour certaines, pour pouvoir défendre ces valeurs et œuvrer pour le commun. L'expression artistique est une forme d'engagement. Elle permet également de mettre en lumière les valeurs qui vous sont chères, mesdames. En tout cas, dans vos pièces, vous nous montrez tout ça. Question spécifique et pour vous, Sophia, on vous connaît donc derrière le micro, on vous le connaît sur scène, à l'écriture et au jeu. Vous êtes avec nous depuis hier. Vous avez eu la chance de voir les pièces de Lucie et de Jeanne ici même à la scène nationale. Mais vous arrivez du Rwanda, où vous avez été invité pour la commémoration des 30 ans du génocide. Est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu plus justement de ce pays, de votre implication là-bas et peut-être des femmes inspirantes que vous avez pu y rencontrer ?
Alors déjà, je voulais remercier les deux metteuses en scène extraordinaires pour les spectacles qu'on a vus hier. C'était vraiment un très très grand moment, vraiment. Et c'était un très bon moyen pour moi de mettre dans le bain des héroïnes. Et effectivement, j'arrive du Rwanda, je suis arrivée en fin de semaine. J'y étais parce que je suis attachée à ce pays depuis quelques années maintenant. Je suis membre d'une ONG qui est très implantée au Rwanda et qui lutte contre la très grande pauvreté. On sort des familles de la très grande pauvreté avec cette ONG. Et la place des femmes y est extrêmement importante. Et on voit à quel point, quand on met en œuvre un dispositif qui va créer une activité génératrice de revenus, quand ce sont les femmes, et ça a été vraiment démontré, hein, quand ce sont les femmes qui sont aux manettes, la famille a plus de chances de se sortir de la très grande pauvreté et de manière durable. Non pas que les hommes n'y soient pas intéressés, mais il y a d'autres problèmes. Parfois, la très grande pauvreté peut les entraîner dans des consommations d'alcool, dans une violence intrafamiliale, etc. Alors que quand je ne dis pas que toutes les femmes sont parfaites, hein, loin de là, mais quand le dispositif est mis en place autour des femmes, pour les femmes et leurs enfants, les hommes se greffent et intègrent le programme, qu'on ne les exclut pas du tout, on les intègre. Et donc pour moi, c'est aussi une façon d'être dans le réel avec cette ONG qui est vraiment sur des sujets qui sont extrêmement concrets. On aide donc à cette activité génératrice de revenus, à l'éducation, on fait de la prévention contre les violences basées sur le genre. Donc c'est vraiment assez complet et passionnant, et c'est un pays pour lequel j'ai un attachement très fort. Parce que on utilise souvent le mot résilience, parfois de manière un peu hasardeuse. Quand on est au Rwanda, ça prend tout son sens, vraiment. La réconciliation est en œuvre. Il règne une espèce de douceur assez paradoxale quand on voit la violence du génocide. Et puis, on parle d'héroïne. Et j'avais juste envie de dire que Il n'y a pas que des femmes admirables ou des femmes qui ne font rien. Il y a aussi des femmes qui ont été capables de commettre le pire. Et ça, pour moi, ça me paraît assez important de le rappeler. C'est, le mal ne vient pas des hommes et le bien des femmes. C'est-à-dire que le monde n'est pas aussi binaire. Il y a des femmes qui ont été génocidaires. La veuve du président Habyarimana, qui est une de celles qui a orchestré le génocide, est encore en vie. Elle est encore en France. Hein. Elle vit dans l'Essonne très paisiblement. Mais je le dis parce que parfois, on a tendance à idéaliser les femmes. Les femmes, c'est le bien. Une mère, c'est forcément quelqu'un de parfait. Une mère, c'est forcément quelqu'un de doux. Non, non, il y a des connasses. Pardon, il y a des... je vais reprendre mon vocabulaire de radio châtier. Il y a des femmes horribles, il y a des femmes odieuses, et il y a des femmes merveilleuses, et il y a des femmes extraordinaires. Et je tiens à le rappeler parce que, au contraire, ça fait de nous des personnes qui peuvent être à égalité avec les hommes. On a aussi nos garces, et on a aussi on a nos héroïnes et on a nos garces.
C'est pas le mal, l'origine du mal, de la monstruosité, c'est pas le mal, Emma, elle, c'est le mal.
Exactement, et je trouve ça important de le rappeler, et ça fait de nous vraiment les égales des hommes, quoi. On a aussi nos monstres.
Alors, si je peux me permettre, Julie m'interdit d'employer un mot, mais il y a quand même un courant de pensée qui a tendance à voir le mal que d'un côté, quoi. Le mal, je sais pas si elle voit le mal, mais enfin, en tout cas, elle voit le mal.
Oui, oui, oui. Et c'est pour ça, je pense que pour moi, l'universalisme, ça se situe aussi là. C'est-à-dire que, évidemment, il y a des héroïnes et évidemment, il faut les mettre à l'honneur et vous le faites vraiment très bien et il faut continuer. Mais il faut aussi essayer d'éviter l'écueil qui consisterait à dire que les femmes sont merveilleuses et que tout passera par les femmes. Non, ça passera par un travail commun de femmes et d'hommes pour une société plus juste et plus équitable.
Alors, juste une dernière. Une dernière petite question avant d'enchaîner. Et comment est venu ce lien avec ce pays en particulier ?
Alors, c'est vraiment cette ONG qui s'appelle FXB. FXB, c'est les initiales du fils d'Albina Dubois-Rouvray, qui est la fondatrice de cette ONG. Et c'était le pilote de l'hélicoptère qui transportait Thierry Sabine et Daniel Balavoine au Paris-Dakar. Et cette femme, quand elle a perdu son fils, elle a tout perdu. Et c'était une héritière. Elle a vendu 80% de tout ce qu'elle avait pour créer cette ONG. Et quand j'ai rencontré Albina, qui est pour moi une de mes héroïnes, mais que j'ai rencontrée il y a une dizaine d'années maintenant, mais aujourd'hui c'est une femme que j'admire et pour qui j'ai une admiration sans borne, qui a mis en place ce dispositif et que j'ai intégré son association et son ONG. Et au Rwanda notamment, on a un des programmes les plus efficaces. On est un peu partout dans le monde. Je dis on parce que maintenant c'est ma famille aussi, je me la pète. Mais c'est vraiment, ouais, voilà, c'est pour ça que le Rwanda, quand j'y suis allée, et ils m'ont proposé, les équipes sur place, de rentrer au conseil d'administration au Rwanda. Et je suis tombée complètement amoureuse de ce pays. Et puis, la culture là-bas est très riche. Enfin, je veux dire, il y a plein d'artistes.
Et puis Gaëlle Faye.
Et puis Gaëlle Faye, que je connais depuis très longtemps. Très fan de Gaëlle Faye depuis des années maintenant. Voilà. Et puis Sonia Roland. Et puis, il y a des tas de gens qui œuvrent aussi pour le Rwanda, des gens de la diaspora. Voilà. Il y a plein d'autres pays pour lesquels j'ai beaucoup d'admiration. Mais le Rwanda, un lien très, très fort aussi.
Merci beaucoup.
J'ai raconté ma vie un peu là, non ?
Oui, mais
non.
C'est bien, c'est intéressant. C'est pour ça qu'on vous a invité.
C'est gentil.
Depuis que je n'ai pas le droit, je veux un enfant dans le ventre. J'aurais sûrement dû taire parfois. L'envie si grande et menaçante. Depuis que mes amis me mentent, qu'ils disent que je suis comme les autres. Je veux un enfant dans le ventre, qu'on s'aime, qu'on ait une vie grandiose. Grandiose. La vie que j'avais inventée. Les bouches qui s'effleurent dans la cour.
pas toi, t'auras une vie grandiose, grandiose. Du terre parfois, l'envie si grande et menaçante. Depuis les cloches assourdissantes, le gris de l'église de fond rose, je veux un enfant dans le ventre, qu'on s'aime, qu'on ait une vie grandiose, grandiose.
Je le fais sans lunettes, ça devrait aller. Ah, Jeanne, alors là, direction la Croix-Rousse. Je pense qu'on peut se tutoyer, on se connaît quand même depuis un certain temps. Alors, je t'ai connue, si je ne m'abuse, vraiment, sur scène, quoi, pas autrement, en 2003, dans une salle villeurbanaise, bien connue. Et ensuite, tu as fait une carrière de chanteuse. D'auteur, d'interprète, d'autrice, pardon, je vais me faire tuer par.
Lieu,
d'interprète. Et en voyant ta pièce hier soir, je n'ai pas pu m'empêcher de penser à plusieurs fois où je t'ai vu en scène, où tu reprenais une chanson d'Anne Sylvestre, Une sorcière comme les autres. Et je me disais que tes héroïnes, toi, quelque part, c'était peut-être ces femmes du quotidien que finalement on voit peu, ou que pendant très longtemps, on a ignoré. Alors, je ne sais pas ce que tout ça t'inspire. Et je compléterai par une deuxième question. C'est quand on est chanteur, chanteuse, musicien, on est dans le spectacle vivant, on a un rapport direct avec le public. Et on a toutes les émotions qui vont avec, la montée d'adrénaline, parfois la déception, etc. En faisant de la mise en scène, on se coupe de ça et on met des comédiens. Tu as mis des comédiens entre toi et le public. Et ça, comment tu le vis?
Alors, je commence par la première question sur les héroïnes, c'est ça?
Si tu veux.
Voilà. Donc, la première question, oui, pour parler d'Anne Sylvestre, par exemple, ou une sorcière comme les autres, ou les héroïnes du quotidien, effectivement, moi, je suis très touchée par la question du travail domestique, qui est la plupart du temps portée par les femmes et qui est vraiment... qui est de moins en moins invisibilité, mais enfin quand même invisibilisée, pardon, mais quand même ça demeure. Et je trouve qu'Anne Sylvestre l'a chanté quand même ça, les femmes, les mères, le choix, la maternité, non, tu n'as pas de nom. Et elle d'ailleurs, c'est une femme qui a eu des enfants et qui a su être chanteuse en ayant une vie de famille. Et je trouve que ces questions-là, qui sont souvent reléguées aux femmes, du travail domestique, quoi, du soin, de tenir une maison, du foyer, c'est rarement. Il s'en parle de plus en plus, c'est rarement mis sur scène, en tout cas, enfin, moi je ne l'ai pas beaucoup vu, et puis c'est rarement valorisé dans la société et dans le milieu artistique aussi. Et effectivement, c'est héroïque, quoi, de tenir une maison, un foyer, et puis l'humanité qui naît. Et puis il y a d'ailleurs des écrits qui ont été faits sur la question de la révolution sera féministe, mais que peut-être que si d'un coup on considère vraiment le travail domestique comme quelque chose qui pourrait être rémunéré au même titre qu'un autre travail, d'un coup les équilibres sociétaux, économiques seraient rebalancés et que certainement que le capitalisme s'appuie sur l'invisibilisation et le travail gratuit des femmes. Mais ça, je ne vais pas plus loin là-dessus, mais du coup, je trouve que c'est quelque chose qui... Voilà, les héroïnes, effectivement, du soin et du travail non rémunéré, ça m'intéresse, oui. À la deuxième question, c'est donc j'ai mis des actrices et acteurs à ma place sur scène, c'était ça, entre l'écriture et... Ah oui, alors qu'avant, ça. J'étais sur scène.
Oui. Donc oui, effectivement, avant j'étais sur scène et puis maintenant, en ce moment, en tout cas, je propose à des actrices et acteurs de prendre la scène parce que j'ai envie de toucher à l'écriture théâtrale et que je suis bien incapable, je ne suis pas du tout comédienne et que je travaille avec des gens qui savent faire ça, qui sont de haute voltige. Et d'ailleurs, ils s'appellent Lucille Marianne, Arthur Van de Poel, Thomas Hortet et Savannah Roll pour Hier Soir. Et c'est des actrices et acteurs super, super forts. Et puis moi, j'ai un plaisir inouï à écrire et à voir un texte prendre son envol avec eux. Et je serais bien incapable de faire ce qu'ils font, c'est pas du tout mon métier, et c'en est un. Et c'est un plaisir, et puis moi je retrouve aussi le plaisir de la photographie que j'ai. Donc de voir la scène et le cadre, et de pouvoir travailler avec quelqu'un qui fait de la lumière, de la scénographie, de travailler l'image. Et moi ça me va très bien d'être un petit peu plus loin que sur scène. Et personnellement j'aime chanter, mais d'être moi sur scène avec mon nom, mon visage, mon corps, c'est pas forcément là que je trouve mon plus grand plaisir.
D'accord.
Alors, vous avez toutes les trois, mesdames, des parcours artistiques variés, que ce soit à l'écriture, à la mise en scène, au jeu. Qu'est-ce qui vous a, pour chacune, amené à la scène, justement, au spectacle? Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de vos débuts? Je ne sais pas si Sophia veut nous indiquer.
C'est mon prof de PS qui m'a emmenée au théâtre. Je sais, c'est pas commun, mais c'était pas du tout quelque chose de naturel chez nous. Le théâtre, c'était loin de nous, on n'allait pas au théâtre. J'étais dans une famille de banlieue classique, il fallait bien travailler à l'école, on faisait du sport et des choses comme ça, mais le théâtre, c'était pas pour nous. Et j'habitais dans une ville communiste, et ça a son importance, parce que dans les villes communistes, il y a toujours eu une volonté de mettre la culture au centre, le sport pour tous, la culture pour tous, et c'était pas du tout galvaudé, et moi j'ai eu accès à ça grâce à mon prof de sport et grâce à mes enseignants en général.
Merci. Lucie?
Moi c'est aussi un peu, c'est l'éducation nationale aussi. Tous les midis je mangeais à la cantine et je m'ennuyais beaucoup, et il y avait des ateliers soit badminton, soit basket, soit théâtre, et j'ai choisi théâtre et ça a commencé un peu comme ça au collège.
Merci. Et pour vous, Jeanne?
Et moi je viens d'une famille d'artistes, mon père est chanteur, il s'appelle Rémo Gary. Et ma mère, elle chante aussi, mais mes grands-parents chantaient. Enfin, il y a toujours eu la dimension artistique dans ma famille, et je le percevais pas forcément enfant, mais enfin, il y avait un piano entre la cuisine et la chambre, et je m'y arrêtais comme je me serais arrêtée sur autre chose, et c'était présent. Donc après ça, ça a été le plaisir de faire comme, et le plaisir, tous les enfants aiment jouer du piano quand un piano est ouvert, quoi. C'est arrivé comme ça.
Merci. Alors maintenant, Lucie Rébéré, on va s'attacher un petit peu à votre processus créatif qui est riche. Hein, vous nous avez dit, vous appuyez sur Pina Bausch, la grande chorégraphe qui vous a donné le goût du théâtre. Alors Pina Bausch, elle disait: « Le théâtre est en rapport étroit avec ce que font les enfants, ce que nous faisons parfois. En fait, ce n'est permis que lorsqu'on est un enfant. » Patauger dans l'eau, se barbouiller, se couvrir de peinture, jouer. Qu'adulte on puisse encore une fois le faire sur scène, je trouve cela génial, disait Pina Bausch. Et je trouve que c'est exactement ce que l'on a vu hier soir, Lucie. C'est-à-dire que, oui, il y a la cohérence, merci pour la cohérence. Parce que, voilà, hier soir, vous nous avez emmené dans une pièce que vous avez mis en scène, donc sur l'histoire d'Albertine Sarrazin, et on a suivi tout le parcours de cette femme, de cette jeune femme, enfin, morte assez jeune, voilà, mais qui a été traversée par voilà, la prison, la prostitution, le processus créatif, puisqu'elle a écrit trois livres, voilà, l'amour, enfin, voilà, vous nous avez emmené avec cette comédienne d'une intensité folle. Et du coup, comment, Lucie, vous liez dans votre processus créatif justement la littérature, la musique? Hier soir, c'était la musique de Patti Smith qui nous a emporté, la radio. Voilà, parce que du coup, il y a cette radio qui donne cette voix off dans votre pièce. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus?
Oui, alors, en fait, Pina Bausch, je prétends pas du tout faire le même travail que Pina Bausch. Pina Bausch qui était chorégraphe, et moi, vraiment, je suis au théâtre. Mais en tout cas, c'est plutôt une chorégraphe inspirante pour moi que je trouvais très libre, enfin, quand je vois ses pièces. Donc, c'est plutôt une source d'inspiration que vraiment, voilà. pour juste remettre ça, et surtout avec beaucoup d'humour, ce que je perçois dans son travail, et ce que je crois avec Nelly Pulicani, la comédienne donc, qui joue dans Sarrazine, pièce écrite par Julie Rosset-Lerochet, j'ai l'impression qu'on a abordé ce destin d'Albertine Sarrazine qui est complètement dingue et qui peut faire un peu peur, quoi. C'est un grand costume à enfiler, avec beaucoup d'humilité par le jeu, par l'enfance, par l'humour, par jouer à... Je ne suis pas Albertine Sarrazin, mais par le processus théâtral, par la mécanique théâtrale, par des artifices. D'un coup, je peux rentrer dans sa peau puis en ressortir. Enfin, voilà, des allers-retours comme ça, ce que j'appelle souvent dans le travail des mises en jeu. Comment on se met en jeu? Comment on joue à? Et à partir du moment où on joue à, ben, presque, c'est pas sérieux, quoi. Et puis, on dit bien jouer au théâtre et pas... je ne sais pas, trop réfléchir au théâtre. Donc on joue à être Albertine Sarrazin. Et ça, c'est dans tout le travail, comment je travaille, j'aime bien, dans la direction d'acteur, comme ça, aborder par le jeu. Et puis après, tout ce qui est musique, littérature, bah, c'est comme ouvrir un grand chantier, quoi, partir en exploration. Alors c'est voir ce qui correspond, voir les sensations... par rapport au sujet, par rapport à l'héroïne qu'il faut défendre. Et pour Patti Smith, hier, c'est une anecdote assez croustillante, peut-être que j'ai le temps de la raconter, c'est qu'on cherchait avec le créateur sonore, Clément Rousseau, qui a créé le son dans Sarrazine, quelque chose qui accompagnerait ce texte, qui accompagnerait le parcours de Nelly et puis Albertine Sarrazin. Et puis on est allé explorer du bebop algérien parce qu'Albertine Sarrazin est née en Algérie. On a exploré du Edith Piaf parce que c'est la période. Enfin, et puis ça collait pas, quoi. Il y avait quelque chose qui marchait pas. Et puis moi, je suis une grande fan de Patti Smith depuis longtemps. Je la trouve trop rock, trop libre, trop punk. Et je dis, bah, en fait, on va mettre que Patti Smith, quoi. Je sais pas, c'est une femme. Je trouve ça colle avec Albertine Sarrazin. Il y a une rencontre qui se fait, que Patti Smith. Et je vous jure, je ne vous mens pas. Ma scénographe, Amandine Livet, la scénographe de la pièce, un jour revient et dit « Ah, il y a une nouvelle édition de L'Astragale, qui est l'œuvre majeure d'Albertine, enfin, un des trois romans d'Albertine Sarrazin. » Et cette réédition était préfacée par qui ? Patti Smith.
Mais non.
Je te jure. Non, mais je vous jure. Bon, après, donc, je suis trop flattée de raconter ça. Hein. Je me la crâne à mort. Et ce qui est fou, c'est que dans cette préface, elle explique qu'elle était à Greenwich Village, à New York et tout. Et puis, elle trouve L'Astragale traduite, parce qu'il faut savoir qu'Albertine Sarrazin a été traduite dans beaucoup de langues. Et elle trouve L'Astragale et puis elle achète ce petit roman et elle tombe amoureuse de la plume d'Albertine Sarrazin et qu'à chaque fois que Patti Smith part en tournée, elle range L'Astragale dans un petit foulard en soie qu'elle met dans sa valise pour sa tournée. Donc en fait, c'est des femmes qui se sont rencontrées, quoi, quelque part. Donc ça, je suis trop contente au plateau. Il y a Albertine Sarrazin et Patti Smith, mais c'est un hasard en vrai au départ. Voilà.
Mais en tout cas, la rencontre est puissante sur scène, hein, la rencontre entre ce destin que vous nous mettez en scène et puis cette musique. C'est vrai que c'est d'une puissance folle.
Merci.
C'est à toi.
Mais c'est une très très belle histoire, Nelly, hein, vraiment. Elle est magnifique, cette histoire. Merci.
C'est fou, hein.
Si tu avais voulu l'inventer, tu n'aurais pas pu.
Bah non, mais trop de chance. Mais parfois, ouais, mais c'était intuitif en même temps. Je pense qu'il y a, ouais, c'est des femmes comme ça qui brûlent aussi beaucoup.
Pardon, du coup, c'est moi qui reprends le micro. L'histoire a donc l'habitude d'invisibiliser les femmes et leurs travaux. L'histoire de l'art en fait tout autant. Un oubli qui nous rend toutes et toutes ignorants d'une partie de notre héritage culturel et artistique. Depuis de nombreuses années maintenant, des chercheurs, des collectifs, des associations alertent sur l'invisibilisation des femmes et tentent de redonner leur place à ces créatrices qui constituent une partie du capital artistique et culturel de l'humanité. Vous qui faites partie du monde des arts et de la culture aujourd'hui, comment est-ce que vous voyez la place des femmes depuis ces dernières années? Est-ce que vous voyez quelques évolutions? Est-ce que vous voyez des changements arriver? Jeanne, tu as côté. Je te laisse la primeur de répondre.
Oui, quand même. Je trouve que ça évolue. Hier, je je vais dire quelque chose qui m'a fait rire, mais je trouve ça intéressant. Je discutais avec la personne qui va faire la prochaine création lumière du prochain spectacle de la compagnie, et elle me disait, c'est pas que pour flatter, mais je vais quand même le faire, l'équipe du théâtre de Bourg au niveau technique est vraiment super, elle me disait. Et elle me disait, en plus il y a plein de jeunes, et quand il y a des jeunes, ils sont pas lourds. Et j'ai trouvé ça quand même rigolo, en tant que technicienne lumière, d'apprécier qu'il y ait une équipe jeune, parce qu'elle sait qu'elle n'aura pas de remarques sexistes. Et je me suis dit, ah, c'est rigolo, je ne l'avais jamais entendu formuler comme ça, mais ça veut dire qu'en tout cas, ne serait-ce que dans ce micro-milieu-là, mais ça veut dire que ça doit exister ailleurs, qu'il y a une attention à ne pas faire des blagues sexistes à une jeune femme qui serait en train de monter une échelle, mettre un projecteur. Donc je me suis dit, c'est rigolo, ça m'est revenu aux oreilles que quelque chose évolue dans... dans la manière de s'y prendre pour vivre et d'échanger sans forcément prêter attention. Dans le milieu du spectacle, effectivement, maintenant, dans les contrats, on a un numéro référent pour le harcèlement. Donc tout ça, au bout d'un moment, on s'habitue. Et effectivement, il me semble que dans certains milieux sociaux, en tout cas, il y a des choses qui évoluent. Et en même temps, pas dans tous les milieux et pas de partout sur le globe encore. Vraiment, les rapports de domination sont encore vraiment là. Mais oui, ça boule dans le bon sens ici.
Après, il y a encore beaucoup de travail, mais c'est bien de noter ce qui arrive. Lucie ?
Franchement, je trouve que c'est un vaste, vaste sujet. Ouais. Alors oui, ça bouge. Moi, je suis d'accord avec ça. Je trouve que, après aussi, je pense que j'ai grandi, mais je me rappelle de... Voilà, je suis metteuse en scène, j'arrivais à ce que tu racontes sur les plateaux la veille de la représentation pour le montage technique. Et puis en fait, je sais pas, j'avais à peine 30 ans et j'étais face à 10 bonhommes que j'adore, les techniciens. Mais c'est vrai que c'était, voilà, pour ma crédibilité, comment on fait pour, avec ma voix, leur dire « non, ça va pas, on va aller là-dessus ». Et je me rappelle d'un truc, c'est que je mettais beaucoup de rouge à lèvres à l'époque. J'avais l'impression que c'était mon armure pour, au contraire, d'être dans la surféminité pour affirmer des choses. Maintenant, je sens plus trop ça. Alors, j'ai plus d'expérience aussi, certainement. Mais donc, je trouve que ça bouge sur la place qu'on fait aux metteuses en scène. Personnellement, après, je me dis, qu'il y a encore beaucoup de focus jeune créatrice, de temps fort sur les metteuses en scène, et je me dis qu'il faut continuer à faire ça, mais que idéalement, j'aimerais qu'on arrête de faire des focus, quoi. Ça voudrait dire que, je rappelle que les femmes sont quand même la moitié de l'humanité. Il y a ça, et après, quand même, j'ai l'impression que, en tout cas, les grands plateaux, c'est encore un événement. J'ai l'impression que quand les femmes ont des grands plateaux, on n'a qu'à voir la cour d'honneur à Avignon. C'était la deuxième femme, Julie Deliquet, depuis la création du Festival d'Avignon, à avoir la cour d'honneur. Donc, ça avance, mais il y a encore, il me semble, beaucoup à faire. Et puis, en fait, c'est qui a le pouvoir ? C'est les directeurs, directrices, c'est les tutelles. Ça va très haut, et c'est comment on redistribue aussi. Donc, je ne sais pas, je suis un peu partagée là-dessus. Donc, continuons les temps forts sur les héroïnes. Il en faut plein.
Continuons à mettre toutes ces femmes en lumière. Sophia ?
Oui, il y a énormément de progrès. Moi, quand j'ai démarré, il y a quand même quelques années de ça, on me demandait qui s'occupait de la garde du petit, comment je faisais quand j'étais en tournée, ce qu'on n'a jamais demandé à mes camarades hommes qui partaient en tournée. Je répondais que cet enfant avait un père. On m'a posé la question qui est quand même, des journalistes m'ont demandé est-ce qu'on peut être belle et drôle ? Sous-entendu que, voilà, c'est vraiment une question qu'on m'a posée, sous-entendu qu'on ne pouvait que rire des femmes, mais pas rire avec les femmes, c'était quand même ça qui était dit. Ensuite, quand je suis arrivée comme chroniqueuse sur France Inter, sur la matinale précisément, parce qu'avant j'étais chez Stéphane Bern au Fou du Roi, là ça posait pas de problème, mais quand je suis arrivée sur le domaine de la politique, là je me suis pris des trombos de commentaires, de quoi elle parle celle-là, des journalistes qui m'expliquaient comment je devais parler de l'extrême droite, comment je devais parler de tel sujet, qui venait me mansplainer, comme on dit aujourd'hui, qui venait m'expliquer un peu comment je devais faire. Ça, j'y ai de moins en moins droit. J'ai gagné un peu ma place, mais il y avait très peu de femmes en humour politique à l'époque où je suis arrivée. Aujourd'hui, il y en a plus, ça se démocratise. Ça prend du temps. Il faut y aller parfois à la sulfateuse. Il ne faut pas leur laisser le choix. On prend la place. On ne se justifie pas. On ne s'excuse plus d'être là. On est là. Il va falloir faire avec. Et puis, effectivement, il faut continuer de nous mettre à l'honneur. Mais à un moment, ce ne sera plus un sujet. Je serai juste humoriste, politique, basta, quoi.
Vous êtes sûr que c'est à moi ?
À toi, mon héroïne.
On a beaucoup parlé du passé, des héroïnes de la guerre, des héroïnes un petit peu aussi du quotidien. Mais voilà, si on vous demandait, vous maintenant, vous trois, quelles seront vos héroïnes du futur, vous penseriez à quoi? Alors moi, je me suis posé des questions avant de vous la poser. Je me suis dit, est-ce qu'elles seront plutôt lanceuses d'alerte ou plutôt Louise Michel montant sur une barricade ou Charlotte Corday tuant un révolutionnaire qu'elle déteste dans sa baignoire? Alors, est-ce qu'il y a des personnages types auxquels vous pensez pour le futur? Allez, Jeanne.
Je commence. Oui, plutôt Louise Michel, en tout cas, dans ce que vous nous dites, mais ça, c'est plutôt le passé. Non, mais moi, je reviendrai sur ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire que j'aimerais que l'endroit qui n'est pas encore héroïque le devienne. Ça serait ça, le futur, les infirmières, que ça, c'est des héroïnes, quoi. Voilà, et elles sont moins payées que la plupart des hommes qui réparent l'électricité dans les hôpitaux. Mais tous les métiers du soin, les métiers portés par les femmes, dans les crèches, dans les écoles, c'est tous les métiers payés des femmes et les métiers pas payés des femmes, c'est... J'aimerais qu'un jour on puisse raconter qu'il y a de l'héroïsme là-dedans. Voilà.
Très bien.
Lucie, moi j'ai l'impression que les jeunes ont un méga coup d'avance, quoi, qu'ils sont beaucoup plus intelligents que nous. Et je pense que déjà la non-binarité donne. Enfin, qu'ils inventent tellement de choses à ce sujet sur. Hommes, femmes, en fait on peut être autre et on peut être... voilà, j'ai l'impression que les héroïnes, les héros sont en train de réinventer aussi ces clivages-là, cette binarité-là. Et puis je pense aussi qu'ils seront tous des chercheurs d'eau. J'ai l'impression qu'il faudra les héroïnes ou les héros... voilà, moi je vois plus ça, c'est comment on va devoir chercher l'eau et pas avoir trop chaud... Donc je sais pas, je pense à Julie Rossello qui écrit Grand-mère feuillage, une pièce pour le jeune public sur la question justement aussi écologique, et j'ai l'impression que ce serait une super héroïne écologique à inventer là, qui est par là, je dirais ça.
Et moi, mes héroïnes du futur, elles sont en Iran aujourd'hui. C'est les femmes iraniennes pour qui j'ai une admiration sans borne. Leur courage, leur force, leur détermination, pour moi, il est là le modèle pour plus tard.
Eh bien, merci en tout cas à vous pour votre parole. On arrive vers la fin de cette émission. Parlons un petit peu de vos actualités respectives, en tout cas en lien avec notre territoire. Donc Sophia, vous allez être artiste complice ici à la scène nationale à partir de septembre, la temporalité durant laquelle vous viendrez jouer votre nouveau spectacle, Le Monde d'après, mais également vous nous accompagnerez dans la construction de soirées regards, de médiation et d'autres actions que nous proposerons ici. Lucie, après votre expérience du cabaret renversé, pas du tout cabaret renversé est un spectacle qui jouera bientôt ici. J'ai confondu les cabarets, excusez-moi, donc du cabaret secret héroïne qui a été co-construit avec Julie Rossello-Rocher, avec qui vous partagez la compagnie La Maison,
et Charlie Marty.
Charlie Marty pour la musique. Vous allez retrouver, en tout cas Charlie, pour la mise en scène du cycle 3 du Conservatoire de Bourg, sur la texte de Sébastien David, Une fille en or, et vous viendrez en janvier 25 avec votre nouvelle production qui s'appelle Dernière frontière, l'adaptation du roman de de Catherine Poulain.
Le 27 avril au Conservatoire de Bourg, Une fille en or à 18h.
Et ben ça, beaucoup de choses le 27 avril, nous y reviendrons dans deux minutes, puisque Jeanne, après Marguerite l'Enchantement que vous avez présenté ce week-end, vous serez en résidence en Aumur pendant les vacances scolaires et pour votre prochaine production qui s'appelle Nos prochaines vacances ensemble, dont la sortie est prévue à l'hiver 24. Alors pour celles et ceux qui voudraient, avant d'aller voir la restitution du cycle 3 proposé par Lucie au conservatoire, il y aura la sortie de résidence du spectacle de Jeanne, donc de la Compagnie Neuve, ce même 27 avril. Vous pourrez trouver des renseignements sur notre site internet.
Oui, ça sera à 14h30 ici. C'est une sortie de résidence, c'est une première résidence de travail, donc c'est vraiment, le texte est là, mais les comédiens seront encore texte en main. Il y aura une idée de la scénographie, etc. Mais si vous voulez venir voir et partager autour de ce que vous voyez, c'est vraiment avec plaisir. On n'est pas encore à l'aboutissement du spectacle qui sera présenté ici en décembre, novembre, décembre prochain. Je ne sais plus la date. Voilà.
Merci.
Un peu d'actualité radiophonique. Alors, Radio B, que vous connaissez tous forcément, c'est la radio que vous pouvez, que vous devez écouter. C'est une radio avec une très belle équipe professionnelle, menée de main de maître par Élodie, qui n'est pas là, qu'on salue au passage, des bénévoles acharnés, et plein de belles émissions. Alors, comme on est dimanche, je vous signale pour demain l'un dans l'autre, qui est une émission d'actualité régionale présentée par Perrine et Elsa. J'en profite pour dire qu'une fois n'est pas coutume, vous pouvez faire un petit décrochage le matin à 8h55 et mettre votre radio, vous savez, la radio la plus écoutée en France. Je n'ai pas le droit de donner le nom. Sinon, je vous incite à écouter une émission qui est très bien aussi, qui s'appelle Accordons-nous, qui est présentée par un très jeune animateur. Et dans ce cadre-là, et on aura bientôt, il recevra bientôt une certaine Julie de la scène nationale de Bourg-en-Bresse qui a commencé la guitare il y a très peu de temps, mais qui a été très rapide sur le sujet. Voilà. Qui c'est qui conclut ? C'est toi, Julie ?
Alors, avant de conclure, moi, je voulais juste vous parler de la prochaine thématique que nous allons aborder ici à la scène nationale de Bourg-en-Bresse. Après avoir parlé des héroïnes, nous allons continuer avec une nouvelle thématique qui s'appelle Migration, qui débutera début mai avec notre artiste complice pour cette thématique, qui est Abdelwahab Sebsaf, qui est directeur du CRD de Sartrouville et qui vient présenter sa pièce Ulysse de Taourirt le 3 et 4 mai ici même en grande salle, et c'est un week-end qui sera assez dense puisque en même temps on aura la restitution du projet réalisé avec la compagnie Passaros qui s'appelle I Am Possible et l'inauguration de notre nouvelle exposition qui et elle sera réalisée par la photographe Lauriane Galtier qui s'appelle Traqueuse d'orage. Je vous conseille également de la soirée regard qui aura lieu le 6 mai avec Abdel qui sera un peu aux commandes, en tout cas qui sera force de proposition, et il veut que nous parlions et nous allons aborder le sujet de la décolonisation dans les arts, un sujet vraiment passionnant, et il nous a réservé quelques surprises quant aux invités. Je vous conseille de venir regarder les actualités sur le site théâtre-bourque.fr.
Avant de conclure, Julie et Jean-Claude, je voulais, comme il nous reste encore quelques minutes, redonner juste la parole à nos invités pour un dernier mot, si vous le souhaitez, avant la fin de cette émission sur l'héroïne, ce que vous avez vécu à Bourg-en-Bresse.
Il faut qu'il y en ait une qui commence alors.
C'est ça. Allez, Sophia.
Il faut qu'on se lance. Alors, moi, j'ai juste des remerciements à faire. Des remerciements vraiment sincères parce que j'ai trouvé que la soirée d'hier était, les deux représentations étaient intenses. Ces héroïnes du quotidien, ces femmes, la question de la maternité, la question vraiment tout était posé dans le spectacle que tu as proposé. Ces Marguerites étaient vraiment extraordinaires. Et alors le soir, terminé avec Patti Smith Albertine Sarrazin, merci. Je ne pouvais pas rêver mieux pour venir ici à Bourg-en-Bresse et démarrer moi-même à mon tour mon petit moment avec vous. C'est pas la première fois que je viens ici, hein, j'ai déjà joué des précédents spectacles, mais vraiment j'ai trouvé que comme façon de mettre les femmes à l'honneur, c'était extrêmement pertinent, intelligent, drôle. Enfin voilà, ça y est, vous avez eu assez de pommade, vous en voulez encore ?
Ouais, on a bien. Merci.
Bah, moi, je veux remercier évidemment aussi, parce qu'on conclut. Enfin, c'est pour nous, c'est un peu triste aujourd'hui. C'est la fin de notre période d'association d'artistes complices ici. On reviendra à Bourg-en-Bresse avec la compagnie Les Maisons, mais évidemment, je veux remercier l'ensemble du public très présent hier soir, et puis sur les amateurs, les amatrices des différents ateliers, des différents ateliers qu'on a fait. Je pense à ce cabaret secret héroïne. J'en vois certaines dans la salle. Je les remercie beaucoup. C'était une expérience très très forte pour la compagnie, pour moi personnellement aussi. Et puis remercier l'ensemble évidemment de l'équipe de la scène nationale, parce qu'en 4 mois, j'ai l'impression qu'on a fait beaucoup de choses. C'était intense, c'était fort. Et voilà, ça restera important pour la compagnie, la maison. Donc c'est plutôt des remerciements aussi. Merci.
Eh bien, moi, dans le cadre de cet accueil ici au Théâtre de Bourges, je suis ravie de commencer à travailler ici avec ce week-end et puis les semaines qui arrivent. Donc déjà, un grand merci pour ça, parce que c'est super agréable d'arriver ici. Et puis, je suis super honorée. Et pour les héroïnes, déjà, moi, par rapport au travail de la compagnie, je veux juste citer Audrey Vozel, qui est vraiment la personne avec qui je travaille et qui est dans l'ombre, mais qui a fait la quiche hier pour le spectacle, voilà, par exemple. Et il fallait bien que quelqu'un la fasse, et c'était elle. Voilà, merci à Caroline pour le gâteau de bonbons. Toutes ces petites attentions féminines qui sont très agréables. Et puis hier, le fléchage dans les couloirs, le catering, c'était tout des femmes, tout ça. Donc merci beaucoup. Voilà.
Oui, parce que la quiche, c'est pas peu. Je veux dire, Valentine, elle mange de la quiche. Oui. Donc c'est une vraie quiche qui était.
Et puis moi, ça m'angoisse si j'ai pas eu le temps de la faire. Donc vraiment, je m'en décharge de ça.
Encore une histoire de quiche.
C'est vrai.
Eh bien, écoutez, ça y est, c'est bientôt le temps de nous quitter. Donc, c'est le moment des au revoir et des remerciements. Nous tenons particulièrement à remercier nos 3 invités. Merci Sophia, merci Lucie, merci Jeanne pour cette belle émission. Merci à Joël Garraud pour ses chroniques. Merci à Rémi à la technique pour Radio B, à Charlotte pour Radio B également pour la communication. Merci à nos techniciens de la scène nationale, à Alain, à Manu et à Nico. Merci à nos hôtesses sans qui rien ne pourrait exister, puisque c'est elles qui vous accueillent. Merci à Cécilia, à Marjo, à Catherine et à Laurence qui étaient là avec nous aujourd'hui. Merci à elles. Pour rebondir sur ce que nos invités viennent de dire, un grand merci à Lisiane sans qui l'organisation de cette journée n'aurait pas eu lieu. Donc on peut l'applaudir très fort. Elle fait partie de celles qui sont dans l'ombre et qu'on ne voit pas assez en tout cas. Donc nous la remercions pleinement. Et bien sûr, merci à Jean-Claude et merci à Pascal, sans qui l'animation de cette matinée n'aurait pas été aussi éclatante. Et merci à vous, public, en liesse, bien sûr.
Merci, Julie.
Merci, Julie. Vous pouvez donc retrouver toutes les actualités de la radio et du théâtre, enfin de la scène nationale, sur nos sites respectifs. Cette émission sera également remise en podcast sur le site de Radio B, radio-b.fr. Bon dimanche à tous et à tous.
Au revoir.
Écoutez Radio B. Radio B.
C'est pas du tout un rêve de gosse. Mon rêve de gosse, c'est Radio B, mais...
Faut quand même pas que j'abandonne l'idée du théâtre totalement, parce que si ça se trouve, ça va me plaire plus que prof.
Et finalement, l'écriture, moi, je m'en suis servi comme levier d'émancipation.